Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Oui, le cours de l'histoire qui vous propose de voyager, de prendre l'air, allez, de partir sur la route, pas n'importe quelle route, des routes antiques qui vont nous conduire loin, très loin, jusqu'au bout du monde.
Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Nos antiques ancêtres étaient de grands voyageurs. Oh, mais il n'y avait pas que les hommes qui se déplaçaient, les marchandises aussi. Évidemment, le commerce est une motivation essentielle. Les savoirs également. Alors, nous allons emprunter ces routes antiques qui nous conduisent jusqu'au bout du monde connu et même au-delà. Et si nous les empruntons, nous allons les rendre à leurs propriétaires, à ceux qui, les premiers, les ont parcourus. Voyage dans les roues, sur les routes antiques avec Maurice Sartre. Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient. Vous regardez ces mondes anciens sur le temps très long, du 6e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après Jésus-Christ. Dans ce voyage qui nous étonne, parce que effectivement, à vous lire, nous sommes sans cesse surpris, vous dépassez la Méditerranée. Mais quand nous parlons des routes antiques, nous imaginons tout de suite ces belles routes, les routes romaines. Vous avez décidé d'aller au-delà.
Oui, je crois que les routes romaines sont plutôt une exception. Des belles routes pavées comme ça, il y en a pas beaucoup. Vous savez, même les routes romaines n'étaient pas toutes pavées, elles étaient surtout dans les passages difficiles. Non, là il s'agit de routes, disons que ce sont des morceaux de routes, des morceaux de pistes. On traverse les déserts d'Arabie, on traverse le Xinjiang, ce qu'on appelait autrefois le Turkestan, l'Asie centrale. Et puis, il y a aussi beaucoup de routes maritimes qu'il faut pas oublier. Sur l'Atlantique, sur la mer du Nord, sur la Baltique, pourquoi pas. Et puis, le tour de l'Afrique. Et puis, surtout, il faut bien le reconnaître, l'océan Indien, qui est une sorte de seconde Méditerranée, parce qu'il y a là une activité qu'on retrouve pratiquement nulle part ailleurs sur la planète. Sauf, justement, dans ces mers très fermées, la mer de Chine ou la Méditerranée. Mais l'océan Indien, c'est un grand espace de jeu et d'échange, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir.
Nous allons y revenir, Maurice Sartre. Vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'Université de Tours. Et dans ce bateau de Palmyre, publié chez Talandier, évidemment, il y a des cartes. On ne peut pas parler de route sans offrir des cartes. Il y a des cartes qui nous étonnent par les distances parcourues. Elles sont énormes, ces distances parcourues, mais à vous lire, on se rend compte que, tout compte fait, ce n'est pas si long. Un empereur romain qui voyage sur son territoire voyage énormément. Ces routes qui nous conduisent juste en Chine, en fait, c'est la mise bout à bout de plein de petits voyages.
Oui, je crois que, d'abord, il y a peu de gens qui font la route d'un bout à l'autre. Il ne faut pas l'oublier, je parle pour les routes terrestres. Il y a très peu de gens, peut-être même pratiquement pas, qui vont de la Méditerranée jusqu'en Chine. C'est souvent des relais. On a des exemples. Il y a au moins un exemple d'une expédition qui est partie de Syrie du Nord et qui va jusque dans le pays des Serres, disons le Turkestan chinois ou la partie ouest de la Chine. Mais en général, c'est plutôt des échanges qui se font par des relais. Là où il y a des voyages plus lointains, c'est évidemment en bateau. Le tour de l'Afrique, vous pouvez faire des escales, vous pouvez faire relâche parce qu'il faut de l'eau ou des provisions. Mais vous êtes obligé de le faire. Si vous l'entreprenez et que vous y arrivez, vous faites tout le tour. Autrement, c'est vrai, et vous avez raison de le rappeler, les gens de l'Antiquité sont habitués à des voyages lents. Le plus rapide, c'est le pas d'un cheval. Donc c'est quand même pas très rapide. Et ils sont habitués à des voyages longs. On donne souvent l'exemple de l'empereur Septime Sévère qui, après avoir remporté une victoire en Angleterre, court en Syrie pour vaincre un autre prétendant et revient à Rome. Il a passé 2 ans à cheval, quoi, disons clairement les choses, 2 ou 3 ans à cheval, à ne faire que ça, ou à peu près que ça.
Avec Septime Sévère, nous sommes au 3e siècle, mais Maurice Sartre, vous remontez loin, très loin sur ces voyages. Eh bien, écoutez, commençons par un parcours fascinant.
Oh, Liv, c'est vrai que tu pars avec Pythéas ?
Ben, il paraît.
C'est sûr que tu fais partie de son équipage à Pythéas. Et c'est normal, du reste, puisque tu es un des meilleurs timoniers d'ici. Allez, tiens, bois ça, hein. C'est du vin de Syracuse.
Si tu t'imagines que je parlerai davantage quand j'aurais pu.
Et est-ce que tu t'en irais tout de même si tu ne devais revenir que dans des années ?
Dans des années ? Et pourquoi je reviendrai que dans des années ?
Ah, on ne sait pas. Avec ce monstre de Pythéas, il faut s'attendre à tout. Tiens, suppose que sa galère parte faire le tour du monde.
Le tour du monde ? Mais comment tu veux qu'on fasse le tour du monde ?
Comment ? Tu ne sais pas ça ? Il paraît que le monde est tout rond comme une orange.
Et en admettant que ce soit vrai, que la Terre est ronde, tronche d'ail, tu t'imagines que Pythéas irait faire le tour d'une orange, surtout en bateau, au risque de faire un naufrage au fond du ciel ? Allez, va ! Avec lui, je suis bien tranquille. Si c'est vrai que la Terre est ronde, dès que ça commencera à être un peu en pente, Pythéas, il me fera virer de bord.
Les voyages de Pythéas dans une création radiophonique de 1973. Maurice Sartre. Bon, déjà Pythéas. Alors là, nous nous étonnons de cet accent marseillais, mais non, pas du tout. Alors bien sûr, il y a une création qui nous amuse et nous fait sourire, mais Marseille n'est pas loin.
Non, ce qui est amusant dans l'extrait, il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est cet étonnement devant le fait que la Terre soit ronde. Bon, ça, c'est quand même une donnée que les Grecs connaissait déjà et avait admise dès le 4e siècle avant, au moins. Alors qu'on sait que c'est pas gagné aujourd'hui, au 21e siècle, dans un certain nombre de pays. Bon. Et puis, la deuxième chose, c'est l'idée de partir 2 ans. Mais pourquoi je partirais 2 ans? Là aussi, les anciens sont habitués à des voyages très longs. Le voyage de Maes Titianos, ce marchand qui envoie une expédition de marchands en Chine et qui a rapporté des données assez précises sur les jours de marche, rien que la traversée du bassin du Tarim prend 7 mois. Donc, le voyage aller-retour, c'est plus de 2 ans, bien entendu. Quand on va en Inde, on fait un voyage par an. Aller-retour, pas plus, parce que de toute façon, les vents alternent et on peut pas faire davantage. Donc, l'idée que le voyage c'est lent, c'est une chose qui est acquise. Lorsque Nékao, le pharaon, puisque on a le début en prête chronologiquement pour le livre, c'est à peu près ça, l'expédition de Nékao autour de l'Afrique, vers 600 avant, les gens partent 3 ans. Et c'est au bout de 3 ans qu'on voit un bateau qui arrive des colonnes d'Hercule, comme on dit, des colonnes d'Héraclès, c'est-à-dire du détroit de Gibraltar, qui vient de l'ouest de la Méditerranée, alors qu'ils sont partis par la mer Rouge. Et les gars, tout le monde les a oubliés, bien entendu. Et alors, ils disent, mais si, nous, si on existe, on est ceux qui restent de la flottille que Nékao avait envoyée. Alors on les regarde d'une façon curieuse en disant « est-ce que c'est bien vrai ?» Et ils commencent à raconter leur histoire. Et Hérodote raconte, donne un détail qui lui, à ses yeux, prouve qu'il raconte vraiment n'importe quoi. Ils disent « il y a un moment où on a vu le soleil à droite en voguant vers l'ouest ». Hérodote dit « c'est bien la preuve qu'il racontait n'importe quoi, on n'a jamais le soleil à droite ». Et pour nous, historiens, aujourd'hui, c'est la preuve qu'ils sont bien allés dans l'hémisphère sud, où effectivement, lorsqu'on est le long des côtes de l'Afrique du Sud, qui sont grosso modo est-ouest, eh bien, on a le soleil à droite, c'est-à-dire au nord, lorsqu'il est au zénith. Donc, l'idée de voyage très très long, ça n'effraie pas. Évidemment, il faut que le bénéfice scientifique, et puis surtout le bénéfice économique qu'on espère en retirer en vaille la peine. Mais souvent, c'est le cas.
Eh bien, justement, Maurice Sartre, dans l'extrait que nous entendions sur Pythéas, il y avait cette terre ronde comme une orange, et vous nous dites que les Grecs avaient cette représentation de la terre. Cependant, la représentation qu'ils avaient de la taille des continents ou des espaces est différente. Et c'est ça, par rapport à nous, la différence majeure.
Alors, il y a une différence majeure, vous l'avez tout à fait raison. Mais il y a aussi une évolution profonde au fil du temps. C'est-à-dire que, au début de la période dont je m'occupe, on pense que l'Europe, à elle toute seule, est aussi grande que l'Afrique et l'Asie. On est bien conscient que c'est en fait un partage très artificiel. Hérodote le dit clairement à un moment. Et d'ailleurs, les partages se font pas exactement où là, nous, on fixe aujourd'hui. Ce ne sont pas les mers, c'est pas la mer Rouge qui fait la séparation entre l'Afrique et l'Asie. C'est le Nil. Et de la même manière, entre l'Europe et l'Asie, c'est le Don. Hein? Mais donc ça, ils sont conscients de du caractère très artificiel. Pour ça, quand j'entends des débats, est-ce que la Turquie est en Europe ou, elle est là où elle est, point final. Mais donc, ils partent de cette idée au départ que l'Europe, à elle toute seule, est aussi grande que les deux autres continents. Et puis, tout d'un coup, ils se rendent compte que l'Afrique, c'est peut-être plus grand qu'on avait imaginé. Parce qu'on navigue quand même, même si on ne fait pas souvent le tour de l'Afrique, il y a des gens qui naviguent jusqu'au Mozambique, quand même, d'un côté. De l'autre côté, c'est moins sûr. Est-ce qu'ils descendent jusqu'au Sénégal? On n'est pas absolument sûr. En tout cas, ils vont quand même loin, et puis ils n'arrivent pas à faire le tour. Bon. Oui. Et puis l'Asie, ils se rendent compte qu'il faut des mois et des mois de chameaux pour arriver dans le pays des cerfs. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils ne sont pas au bout du monde pour autant. Ils pensent qu'ils sont pratiquement au bout, mais ils ne savent pas exactement. Et alors tout d'un coup, d'abord ils s'aperçoivent que le monde habité est plus grand que ce qu'ils croyaient. Entre Ératosthène au 3e siècle avant, Claude Ptolémée au 2e après, le monde double presque de superficie, le monde habité. Ce qui n'est pas rien, quand même. C'est-à-dire que le monde habité il fait au moins 180 degrés, même Ptolémée pense même que c'est plutôt vers 230. En quoi il a tort, d'ailleurs? Enfin, il n'a pas tort, parce que ça fait 360, bien entendu. Mais je veux dire que la Terre, la Chine, ne va pas jusqu'au 230e parallèle, de toute façon. Et on a quand même un gain progressif. Et ça, c'est quand même bien le résultat des voyages de plus en plus nombreux, des échanges entre l'Inde, la Chine, l'Afrique, et notamment du monde de l'océan Indien. Donc, il y a un vrai progrès.
Il y a un vrai progrès. Et vous évoquez, Maurice Sartre, ses voyages vers l'Afrique en espérant faire le tour. Et il y a eu, grâce au pharaon Nécao, un tour de l'Afrique vers l'Asie, bien sûr. Et avec Pythéas, on est vers le nord de l'Europe.
Vers le nord. Alors, Pythéas, il est très isolé. Le livre commence avec Pythéas, parce que j'ai pris un ordre géographique. Si j'avais pris un ordre chronologique, ça serait pas, j'aurais pas commencé par lui. Mais curieusement, le voyage de Pythéas est resté très isolé. Et au bout du compte, si on se place à la fin de la période chronologique que j'ai choisie, on s'aperçoit que au 6e siècle, on connaît très bien l'Inde, on connaît pas mal l'Asie centrale, mais on connaît toujours pas la Scandinavie. On connaît à peine le Danemark, très peu. Alors, pourquoi? Pourquoi? Probablement, d'abord parce que ces Méditerranéens ont peur des mers froides. Ils ne savent pas trop naviguer sur ces mers froides. Et puis, je crois qu'il y a une autre raison, c'est que les produits qui viennent de ces régions-là, on se les procure déjà sans trop de peine. L'ambre, il arrive par en remontant les vallées de l'Elbe ou de l'Oder, par exemple. Et puis, des fourrures, puis il vient pas grand-chose du Nord. Tandis que des perles, du poivre, des pierres fines, de la soie, ça vaut la peine, parce qu'on en utilise des quantités astronomiques.
Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi les voyages vers l'Asie sont anciens, très anciens.
Je suis fâché de devoir vous le dire, mais sur le sujet qui aujourd'hui nous occupe, la Grèce a menti, sciemment et délibérément menti. Il n'est pas vrai, dis-je, que l'Inde n'ait jamais été conquise par personne avant Alexandre. Et les compagnons du conquérant macédonien ne pouvaient ignorer que là comme ailleurs, il ne faisait que rétablir les frontières de l'Empire de ceux dont il venait de détruire la dynastie. Nous possédons sur ce point le témoignage écrit de Dariavouche, c'est-à-dire de Darius, et il n'en est pas de plus sûr. Le grand roi, le roi des rois, l'Achéménide, ne pouvait mentir. Outre qu'il n'avait de compte à rendre à personne, ni aucune raison de faire habilement mousser sa publicité, il avait été élevé comme tous les vieux Perses dans l'horreur du mensonge. Et de l'aveu même des compatriotes du trop ingénieux Ulysse, c'était là le plus beau trait de leur caractère national.
Alfred Fouché, historien d'art, qui s'exprimait dans l'émission « Je suis fâché », il explique sur l'ORTF qu'il est fâché parce qu'en 1949, il ne veut pas que l'on dise que les Grecs ne connaissaient pas l'Inde avant Alexandre le Grand. Maurice Sarthe, effectivement, Alexandre le Grand et les conquêtes ont produit beaucoup d'écrits et qui ont imposé cette idée que le conquérant était jusqu'en un an. Les relations étaient anciennes. Mais dès lors, vous, historien, de quoi disposez-vous comme source pour savoir que nous allions jusqu'en Inde?
Alors, les sources, elles sont extrêmement déséquilibrées. Il faut bien le reconnaître. Bien sûr, les Grecs connaissent l'Inde. Déjà, ils savent que ça existe. Ils racontent, Hérodote parle de l'Inde et raconte des histoires extravagantes, enfin qui paraissaient extravagantes, comme les fourmis géantes qui extraient de l'or, etc. Le problème, c'est que les Grecs sont à peu près les seuls à avoir écrit massivement et à avoir laissé des récits. Et le résultat, c'est que cette masse d'informations qu'ils nous ont laissées nous fait oublier que avant eux, il y en a d'autres. De toute façon, il y a des tas de gens qui connaissent l'Inde, ne serait-ce que ceux qui y vivent, et qui, de fait, sont en contact avec l'Empire perse. L'Empire perse va déjà jusqu'à la vallée de l'Indus. D'ailleurs, Alexandre, dans sa conquête, ne prétend pas être allé plus loin que ce que ses prédécesseurs de l'Empire perse avaient déjà conquis. Ce qui va changer, c'est effectivement la connaissance directe. Les Grecs, dès l'époque d'Alexandre, je pense à quelqu'un comme Mégastène, va en Inde et laisse des récits. Et il nous dit, c'est un pays où il y a des fleuves immenses. Il a vu le Gange, peut-être le Brahmapoutre, ça c'est plus moins sûr. Donc, il y a beaucoup de récits. Ce qui est très étonnant, c'est que on a un nombre d'auteurs qui ont écrit des livres sur l'Inde, sur les Parthes. Alors, tes livres s'appellent les Arabicas, les Persicas, les Parthicas, les Indicas, tout ce que vous voudrez. Et presque tous ces livres sont perdus. Il nous reste, heureusement, des masses énormes, comme Strabon, comme Pline, qui ont fait la synthèse, en quelque sorte, qui ont puisé dans toute cette masse d'informations et qui en ont sauvé une partie probablement relativement importante. Puis de temps en temps, il y a un bijou anonyme, comme le périple de la mer Érythrée, qui est visiblement un récit ou un, oui, on peut dire un récit fait par un marchand, quelqu'un qui connaît très bien le milieu des affaires, entre 40 et 60 de notre ère, donc milieu du 1er siècle, et qui décrit, qui nomme tous les ports le long des côtes de la mer Rouge, de l'Arabie, du Golfe Persique, de l'Inde, et qui dit, là on échange ça, là on peut trouver ça, etc. etc. Ça c'est évidemment une pièce maîtresse pour l'historien. Mais on n'a pas l'équivalent ni du côté indien, ni même d'une certaine manière du côté chinois, même s'il y a des livres anciens chinois qui sont très intéressants. Et puis il va sans dire qu'on n'a rien du côté ni africain, ni du nord de l'Europe.
Oui, et cela vous fait écrire, Maurice Sarthe. Si nous avions la totalité des ouvrages écrits dans l'Antiquité sur les pays que les Grecs appellent barbares, eh bien, nous n'avons seulement des fragments. Hein. Nous serions sans doute étonnés par l'ampleur des connaissances. Et c'est vrai que vous venez d'évoquer quelques témoignages qui se distinguent des pépites, mais les Grecs et les Romains aussi connaissaient très bien ce monde-là. Donc ces documents ont été perdus en partie. Pourquoi ? Produits par des voyageurs, commerçants souvent ?
Je crois que c'est d'abord peut-être que c'est les qualités littéraires des ouvrages étaient pas formidables, du coup on les a mis de côté. Et puis il y a eu un tri qui s'est fait, étant donné que ça avait été repris par tel ou tel auteur, on se disait bon ben ça, on le sait déjà, c'est pas la peine de le sauvegarder. Il y a une deuxième source d'information qu'il faut quand même surtout pas négliger parce qu'elle vient souvent compléter, confirmer ou elle aide à comprendre, c'est l'archéologie. Elle est primordiale. Or, les fouilles se sont multipliées depuis la Seconde Guerre mondiale, à la fois en Inde, à Ceylan, en Arabie, sur les côtes de l'Afrique, en Afrique orientale. Et on a là maintenant une masse d'informations absolument gigantesques qui permet... On voit très bien, par exemple, aujourd'hui, qu'on a les mêmes céramiques... À Pondichéry, enfin à Ricamédou, qui est la banlieue de Pondichéry, en Arabie du Sud, et sur les côtes de la mer Rouge en Égypte, par exemple. Et on a là des céramiques qu'on croyait fabriquées à tel endroit, puis en fait non, elles viennent d'Inde. Donc on a l'archéologie, on peut dire, a changé complètement notre regard, et d'une certaine manière a permis de crédibiliser, de confirmer ou de mieux comprendre, parfois de déformer un petit peu parce que il y a des renseignements qui sont transmis et qui sont faux ou qui sont biaisés parce que les anciens eux-mêmes n'ont pas toujours très bien compris. Souvent les anciens, c'est pas eux qui voyagent, ils racontent ce qu'on leur a dit et où ils résument ce qu'ils ont lu. Par exemple, pour Pythéas, puisqu'on évoquait Pythéas tout à l'heure, l'œuvre de Pythéas, elle est perdue. On a quelques fragments, mais sauvegardés un petit peu au hasard. Qu'est-ce qu'il a réellement dit ? Strabon lui fait dire une chose folle, idiote même. À savoir, il y a des endroits au sommet de la Terre, au nord de la Terre, où il fait jour pendant 6 mois et nuit pendant 6 mois. Je suis persuadé que Pythéas n'a jamais dit une telle ânerie. Bien entendu que non, parce qu'il y est allé. Et d'ailleurs, il y a une source qui garde un morceau de Pythéas qui nous fait comprendre que c'est pas du tout ce qu'il avait dit. Il avait bien dit qu'il y a un moment où quand le soleil est au zénith, il se couche à peine pour que ça laisse à peine un peu de pénombre, et puis qu'il y a une période, en revanche, où le jour, lui, est très court, très très court. Donc, vous voyez que la difficulté de l'historien, c'est d'abord d'être modeste face à cette documentation et d'essayer de la comprendre. Moi, je suis toujours parti de l'idée que, a priori, les anciens nous racontent quelque chose, ils savent de quoi ils parlent. Ils peuvent se tromper, comme nous, nous pouvons nous tromper. Ils peuvent s'exprimer faussement. Ils peuvent travestir un peu parce qu'ils ont dans la tête, comme nous, des codes, des savoirs, des a priori, il faut le dire aussi. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire et s'ils se sont trompés, d'abord le montrer, et d'essayer de comprendre pourquoi ils se sont trompés. Et on s'aperçoit au bout du compte que bien souvent, eh bien, ils se trompent pas tellement. Simplement, ils transforment avec les savoirs qui sont les leurs. Et ça, c'est vraiment c'est le boulot de l'historien, entre nous, soit dit.
Et ben d'ailleurs, Maurice Sarthe, dans Le bateau de Palmyre, publié chez Talendier, une grande place est laissée aux sources, à la documentation. Chaque chapitre commence par des citations. Alors, c'est toujours plaisant de lire ces auteurs de l'Antiquité, puis après d'avoir votre regard d'historien qui décrypte, qui confronte les sources, et puis qui cherche à trouver, en fait, ce qui a été dit. Tout à l'heure, nous avons évoqué Mégastène, qui porte un regard sur l'Inde. Ah oui, mais nous n'avons pas conservé Mégastène, sinon par un autre auteur, Arien.
L'aspect physique des habitants n'est pas non plus très différent de ceux de l'Éthiopie. Les Indiens du Sud ressemblent plus particulièrement aux Éthiopiens. Leur teint et leur chevelure sont noirs, avec cette différence qu'ils n'ont pas le nez aussi camus, ni les cheveux aussi crépus que les Éthiopiens. Les peuples du Nord ressembleraient plutôt physiquement aux Égyptiens.
Olivier Martineau, dans Le cours de l'histoire sur France Culture, qui nous lisait un extrait donc d'un compte-rendu de ce voyage en Inde de Mégastène. Maurice Sarthe, vous pouvez nous resituer un petit peu où nous sommes à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, on est autour de 300, si vous voulez, en gros, hein, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, peu de temps après la conquête de l'Empire perse par Alexandre, Alexandre est mort en 323, et à ce moment-là, les régions du nord-ouest de l'Inde, c'est-à-dire ce qui correspond un peu au Pakistan, à l'est, à l'ouest de l'Indus, bien entendu, est sous domination des successeurs d'Alexandre, qui est Séleucos. Et Mégastène est envoyé à la cour des Mauryas, qui règnent dans la vallée du Gange, pour explorer, mais sans doute aussi pour nouer des relations, parce qu'en réalité, Séleucos a remis aux Mauryas une partie des territoires qu'il contrôlait, en échange d'éléphants, etc. Enfin, l'histoire politique est assez compliquée, et là, on la connaît pas très bien. En tout cas, Mégastène a l'occasion d'aller vraiment en Inde, et il n'est pas allé partout, parce qu'il a bien conscience que c'est immense, mais il en donne une description, comme vous l'avez dit, qui est reprise très largement par Arien, puisque l'œuvre de Mégastène lui-même est perdue. Et il donne beaucoup de renseignements, celui qui vient d'être lu, donc m'avait beaucoup frappé, parce que si on connaît effectivement l'Afrique et le Tamil Nadu, enfin les populations tamoules du sud de l'Inde, on peut aujourd'hui encore faire que la même constatation. Ils ont la peau aussi noire les uns que les autres, mais les Indiens ont par exemple les cheveux raides, ils n'ont pas les cheveux crépus, etc. De même, ils ont le nez beaucoup plus droit, les caractères physiques, donc c'est parfaitement bien observé. Mais curieusement, par exemple, Mégastène est persuadé que la pointe de l'Inde, la pointe du Deccan, se situe à l'est. C'est-à-dire qu'il oriente mal la région. Donc on a parfois comme ça des étonnements. Et beaucoup plus proche, changeant d'espace, pendant très longtemps, on a été persuadé que la Grande-Bretagne elle-même était également orientée autrement.
Oui.
Alors que Pythéas en avait fait le tour et l'avait mise, lui, du bon côté, mais 3 siècles plus tard, le beau-père de Tacite, Agricola, gouverneur de Bretagne, fait le tour de l'île aussi, et il est persuadé que ce qui est la côte ouest, celle qui regarde l'Irlande, regarde en direction de l'Espagne. Donc, il y a comme ça des erreurs qui nous paraissent surprenantes, mais qui nous paraissent d'autant plus surprenantes qu'on a, nous, en fait, la géographie, la carte du monde dans l'œil, depuis notre naissance. Enfin, on a tous vu des atlas tout petits. C'est-à-dire qu'on sait à quoi ressemblent et comment s'orientent les paysages, même si c'est parfois un petit peu faux ou flou pour beaucoup de nos contemporains. Mais malgré tout, on sait ce que c'est. Eux, ils sont dans des modèles mathématiques et on essaye de faire coller la réalité à ces modèles mathématiques. Par exemple, on s'est interrogé très longtemps pour savoir si l'Afrique, c'était un triangle avec la pointe en bas, ou si c'était un trapèze. Voilà, c'est une question, ça paraît curieux qu'on se pose cette question-là, parce que pour nous, c'est une évidence. Et je crois que là aussi, il faut voir la part théorique qui souvent accompagne la réflexion. Ceux qui ont finalement donner l'image du monde sont des gens qui ont peu voyagé. Que ça soit Marin de Tyr, que ça soit Ptolémée, Ératosthène, ils ont voyagé un peu, mais ils sont pas allés très loin, ils sont pas allés en Inde, ils sont pas allés en Afrique. Et donc, la géographie, c'est d'abord une réflexion, j'allais dire, de nature à la fois philosophique et mathématique. Et il faut arriver à faire coller l'ensemble. De même que les moyens de mesure. Comment mesurer le temps? Comment mesurer la distance? En journée de marche, en journée de navigation. Mais ça veut dire quoi concrètement? Selon le terrain, selon les détours de la route, la distance évidemment n'est pas la même. De même, un coup de vent peut vous pousser d'un coup très loin vers le sud. C'est arrivé à certains qui se sont retrouvés sur les côtes de Tanzanie ou du Mozambique actuel, alors qu'ils essayaient de remonter vers la mer Rouge. Donc, on manque d'instruments de mesure. L'Antiquité, c'est tout sauf le pays des records. De la même manière qu'en sport, vous pouvez arriver premier, deuxième, troisième, mais vous n'êtes jamais le vainqueur, le détenteur d'un record. Vous ne pouvez pas, puisqu'on ne peut pas mesurer le temps.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs, hein, ce jeu sur le temps et la représentation. Et Maurice Sarthe, vous avez tellement raison de le dire que nous avons dans l'esprit déjà, prenons la forme de l'Afrique, nous le savons, donc dès lors, ça y est, nous ne posons pas de questions, alors que ces gens de l'Antiquité avançaient un peu à l'aveugle en fait. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant à les voir se déplacer. Nous sentons que la motivation n'est pas toujours celle que nous plaçons pour les explorateurs, parce que nous sommes baignés de cette idée de grande découverte, une expression que l'on n'utilise plus ou de moins en moins. Ce n'était pas pour ça, en fait, il se déplaçait beaucoup pour le commerce en soi, et le récit vient après.
Oui, je crois que il y a deux motivations. Je crois que les deux comptent. Il y a sûrement des gens qui vont à l'aventure pour découvrir, pour voir. Quelqu'un comme Pythéas, peut-être qu'il a derrière la tête, est-ce que je vais trouver la route, je voudrais bien voir les îles Cassitérides, d'où vient l'étain, parce qu'on en a absolument besoin. Mais il y a quand même aussi chez lui quand même un désir de connaître, de voir ce qu'il y a au bout, le plus loin possible. Et puis il y a bien sûr le motif du commerce. Finalement, le commerce va motiver la poursuite et la continuité des relations. On voit très bien, on a parlé du tour de l'Afrique. Nekao, probablement, son expédition a fait le tour de l'Afrique. Puis personne n'a recommencé. Peut-être quelques-uns, je donne quelques exemples, on a trouvé des Indiens jetés à part la tempête sur une côte du Danemark. Pour y arriver en bateau, il n'y a pas tellement de choix. Les anciens avaient une autre explication, ils disaient qu'ils étaient arrivés par l'océan extérieur, mais nous on sait que c'est pas possible. Donc là, c'est notre supériorité sur eux. Donc ils ont bien dû faire le tour. De même, quand Caius, le petit-fils d'Auguste, voit un bateau de Gadès dans le golfe d'Aqaba, Gadès, c'est-à-dire Cadix, comment il peut arriver dans le golfe d'Aqaba? Il n'y a pas le canal de Suez. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Eudoxe de Cyzique avait vu, lui, déjà un bateau de Gadès sur les côtes de l'Afrique orientale, et c'est ce qui lui a donné envie aussi de se lancer dans l'aventure. Donc, simplement, cette expédition de Nekao, elle s'est soldée par rien. Ils n'ont rien ramené, ils n'ont rien dit, il y a des richesses formidables. Ce qui venait de l'Afrique subsaharienne, on le recevait déjà. Ça arrivait par les peuples qui traversaient le Sahara, je dirais pas quotidiennement, mais sans peine, et qui amenaient des fauves, de l'or, du sel, Dieu sait quoi encore. Donc, du moment où on avait, de même ce qui venait de l'Europe du Nord, les fourrures, l'ambre, ça arrivait. Donc, pourquoi se prendre des risques inutiles? En revanche, quand on découvre le mécanisme de la mousson et comment on peut naviguer plus facilement en allant vers l'Est et l'Ouest en choisissant bien le temps, là, il y a beaucoup de profit à faire. D'ailleurs, les auteurs anciens le disent, hein. Pline comme Strabon disent de toute façon ce que nous disent les marchands sur les routes, faut en croire que la moitié, parce que ces gens-là, la seule chose qui les intéresse, c'est le profit. D'ailleurs, s'ils ont trouvé, c'est Pline qui le dit très clairement, s'ils ont trouvé une route directe de l'Arabie vers le sud de l'Inde, c'est parce que le profit était plus grand. Et de fait, ils y allaient pour le poivre. Or, le poivre, il n'est pas produit dans le nord de l'Inde, mais dans le sud, et même surtout à Ceylan. Et simplement, là, ils s'approvisionnaient directement. On supprimait des intermédiaires. Donc, je crois que ce qui motive et ce qui a fait l'intérêt du maintien de ces routes, qu'on emprunte ces routes-là, c'est effectivement le profit.
Le profit qui motive, bah oui, nos ancêtres, comme ils nous motivent souvent, hélas, aujourd'hui, Maurice Sartre, quand nous lisons dans votre ouvrage Le bateau de Palmyre, ces histoires, notamment, mais ces Indiens qui arrivent en Baltique, mais on est obligé d'avoir les yeux qui pétillent. Mais le titre, Le bateau de Palmyre, pourquoi direction Palmyre?
Au cœur du désert syrien, voici Palmyre. Entre ses colonnes, s'est promenée la reine Zénobie, beaucoup plus belle que Cléopâtre, selon les chroniqueurs, avec ses dents de perles blanches et ses yeux de flamme. Zénobie, qui surpassait, paraît-il, les hommes en sagesse, et qui, marchant digne le front haut à la tête de ses armées, s'empara de l'Égypte et de toute l'Asie mineure. Du temple de Belle, un arc de triomphe mène, par une voie bordée de 150 colonnes, au théâtre, à l'agora, au terme et au petit temple de Baal-Shamin.
Palmyre, présenté sur l'ORTF en 1966, Maurice Sartre. Pourquoi avoir choisi Palmyre? Parce que nous l'entendons ici, Palmyre, éventuellement Carrefour. Mais alors, le bateau de Palmyre, expliquez-nous.
Oui, ça peut surprendre.
C'est surprenant.
Alors, faut l'expliquer, effectivement. Pourquoi le bateau de Palmyre? Bon, je voulais un titre, justement, qui intrigue. Donc, d'après votre réaction, je m'aperçois que c'est peut-être réussi de c'est ce point de vue-là. À vrai dire, même mon choix était au départ même pas le bateau de Palmyre, mais le bateau d'Onainu, c'est-à-dire le nom du propriétaire qui est palmyrénien. Mais c'était un peu difficile à prononcer et c'était là, il y a au moins un mot, il y a deux mots qu'on connaît, même si on les associe pas. Pourquoi le bateau de Palmyre? Parce qu'on a trouvé à Palmyre la représentation d'un bateau. Et on a trouvé aussi deux inscriptions, dont une qui est bien conservée, mais il y a au moins deux inscriptions qui mentionnent des gens de Palmyre qui possèdent un bateau. Bateau qui, évidemment, ne navigue pas à Palmyre. Et donc, le bateau de Palmyre, c'est pas une image pour parler des chameaux du désert. Hein. Je rassure tout de suite les lecteurs, il s'agit bien d'un vrai bateau. Mais on a une inscription qui date de 157, de mars ou avril 157, si j'ai bonne mémoire, et qui explique que des marchands remercient un chef de caravane, qui est bien connu par ailleurs, c'est un des grands riches de Palmyre, pour les avoir ramenés sains et saufs de Siti. Alors, ce qu'on appelle la Siti à ce moment-là, c'est les côtes du Pakistan actuel, en gros. Donc le nord de l'Inde, la péninsule indienne, si vous voulez, sur le bateau Donaïnou. C'était l'idée de mon bateau Donaïnou. Et ce qui prouve qu'il y avait à Palmyre des chefs de caravane, des marchands, enfin des chefs de caravane surtout, qui non seulement avaient investi dans le chameau, parce que c'est ça qui fait la fortune de Palmyre, c'est qu'ils fournissent les moyens de transport, mais qui possédaient aussi des bateaux qui étaient ancrés sur le golfe Persique, et qui, là, pouvaient prendre le relais et emmener des marchands jusqu'en Inde pour faire leurs affaires à Barbaricum ou à Barigaza, c'est-à-dire dans le nord de l'Inde. Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre d'autres titres, puisque le bateau de Palmyre, c'est une séquence, vous l'avez rappelé tout à l'heure, chacun de ces chapitres commence par un texte, par un document, ça peut être une étoffe de soie, ça peut être aussi des inscriptions, soit des inscriptions latines qui viennent du sud de la mer Rouge, une inscription nabatéo-sabéenne du Yémen, etc. Après, on développe et on essaye de comprendre les fonctionnements, en quelque sorte, de ce système. Donc voilà pourquoi le bateau de Palmyre, parce que je l'ai trouvé symbolique de ces échanges peut-être inattendus et des échanges au très long cours.
Oui, parce que alors là, ces échanges sont inattendus, même si nous les connaissons. Nous savons que les Romains, les Grecs commerçaient avec la Chine éventuellement, mais par des intermédiaires. Et pour Palmyre, effectivement, il est question de soie pour commencer le chapitre. C'est étonnant, c'est une soierie trouvée à Palmyre, une soierie Han, donc qui nous conduit en Chine. Vous en avez parlé, Maurice Sartre, il faudrait toujours penser au regard de l'autre, même si nous n'avons pas beaucoup d'archives. Oui, mais pour la Chine, nous en avons quelques-unes.
La 9e année Yangtze, sous le règne de l'empereur Wan, le roi de Dakin, l'empire romain, Andun, envoya des émissaires d'outre-frontière par Rinan pour offrir des défenses d'éléphants, une corne de rhinocéros et une carapace de tortue. C'était la toute première fois qu'il y avait une communication directe entre les deux pays. L'hommage rendu n'était ni précieux ni rare, ce qui laisse penser que les récits des envoyés pourrait être exagéré.
Le Hu Han Shu, c'est le livre des Han postérieurs. Alors c'est un ouvrage du 5e siècle. En l'occurrence, ce que nous venons d'entendre évoque un événement de l'an 166 après Jésus-Christ. Alors ce regard de l'extérieur sur toutes ces routes, Maurice Sartre, vous a aidé à construire le regard des Grecs eux-mêmes et des Romains sur ces routes et ces voyages.
Bien sûr. Alors, ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir écrire, comme l'avait préconisé il y a quelques années Romain Bertrand, l'histoire à part égale, c'est-à-dire de me placer de temps en temps du côté des Grecs, puis après du côté des Chinois, des Indiens ou des Africains, quels qu'ils soient. En réalité, c'est tout à fait impossible. On peut tout de même le faire du côté des Chinois, et là vous avez cité un extrait extrêmement intéressant qui pose problème d'ailleurs. Et en effet, d'après le Hu Han Shu, en 166, il y aurait eu à la cour de Chine une ambassade d'un empereur, enfin d'un roi d'Occident, de Dakin, c'est-à-dire du Proche-Orient romain. En réalité, ça veut dire Dakin, c'est la Grande Chine, c'est-à-dire en fait l'Empire romain. Et envoyé par un nommé Andun. Évidemment, on voit Antoninos, et 166, ça tombe bien, et Marc Aurèle, son vrai nom, il s'appelle Marcus Aurelius Antoninus. Donc, on est malgré tout très sceptique que Marc Aurèle ait envoyé une ambassade en Chine, et on se demande si c'est pas tout simplement des marchands qui, pour avoir accès à la cour impériale, se sont fait passer pour des envoyés de l'empereur. Bien entendu, à la cour de Chine, on a fait comme on le fait toujours avec toutes les ambassades qui arrivent. Ça ne peut être qu'une ambassade venant apporter l'hommage du vassal à son suzerain. Donc c'est valorisant. D'où les cadeaux qui paraissent un peu médiocres, parce qu'une corne de rhinocéros et une carapace de tortue, c'est d'abord un pâté vraiment typique de l'Empire romain. Donc c'est plutôt des produits qu'ils ont achetés en cours de route et probablement en Asie du Sud-Est. Et puis c'est quand même pas grand-chose pour rendre hommage à l'empereur de Chine. Mais le Wanshu nous donne quand même beaucoup de renseignements assez intéressants. Et il semble bien qu'il fasse allusion, lui, au voyage des Macédoniens au début du IIe siècle. Donc il nous donne aussi un certain nombre de données sur l'Empire romain. Il y a une sorte de description de l'Empire romain, d'une ville fortifiée, d'un empereur qui règne sur des centaines de royaumes et des 400 villes fortifiées, qui a des palais. Alors, il y a à la fois des sceaux justes, par exemple le rapport de l'or à l'argent, le fait que l'empereur écrive, qu'il y a des archives et que tout le monde puisse lui présenter une requête, ce qui est absolument vrai. Qu'il y ait un système de la poste et de la route impériale. Hein. Donc, le cursus publicus, en gros, il semble connaître ça. Et puis à côté, il y a des choses extraordinaires. Il habite des palais en cristal de roche, ce qui est un petit peu excessif quand même. Bon, donc la difficulté du Wanshu, elle tient pour nous, essentiellement, pour faire très bref, à identifier les villes. Et là-dessus, alors je suis pas du tout sinologue, je ne connais absolument pas le chinois, donc je ne peux que me fier à d'autres, et je m'aperçois d'une chose, c'est d'un désaccord à peu près total entre les spécialistes. La même ville, on ne sait pas si elle désigne Alexandrie, Damas ou Rome, en gros. Donc on a là des difficultés. Il ne semble pas que les Chinois soient venus réellement jusqu'en Méditerranée, mais ils viennent jusqu'au bord du golfe Persique. Et là, les Parthes, ils sont donc dans l'Empire Parthe, les découragent d'aller plus loin, peut-être pour sauvegarder leur rôle d'intermédiaire. C'est pas impossible.
Dès lors se pose la question de cette définition de monde connu. Maurice Sartre, nous savons bien qu'il y a dans l'Antiquité cette idée de monde connu. Mais alors le monde connu pourrait s'étendre jusqu'en Chine. En fait, non. Parce que c'est pas du tout la même représentation que nous avons du monde. Où s'arrête le monde connu pour les Grecs et les Romains?
Alors, je crois que la grande difficulté, effectivement, c'est de savoir ce qui est connu et ce qui n'est pas. Moi, j'ai eu l'impression, en travaillant sur cette question-là, qu'on avait en fait cinq grands domaines, en quelque sorte, qui mordent les uns sur les autres. Bon, il est clair que les Grecs, je l'ai dit, ne connaissent pas les mondes du Nord. Il y a un grand monde, nord-européen, nord-asiatique, qui va de l'Islande au détroit de Bering, qui est le pays de tous les fantasmes. Mais ce monde-là, il est en contact quand même, aussi bien avec le monde chinois qu'avec le monde méditerranéen. Il morde sur la marge. On le voit par les importations, par exemple, de vaisselle à thème mythologique grec, purement grec alors. Souvent, c'est les tragédies d'Euripide qui les inspirent, par exemple. Et vous trouvez les mêmes vaisselles ou des choses très similaires au Danemark, dans la basse vallée de la Volga, et au Xinjiang ou au Guangzhou, par exemple, en Chine. Et puis, vous avez le monde chinois, il y a le monde de l'océan Indien, il y a l'Afrique, et puis le monde méditerranéen, proche-oriental. Et ces cinq mondes mordent les uns sur les autres, avec des zones charnières, des zones de rencontre, en quelque sorte. Alexandrie et l'Égypte, en général, est l'une de ces charnières, ce que j'appelle les charnières du monde, je reprends l'expression à Dion de Pruse, qui explique très bien qu'il y a des endroits où les mondes se rencontrent de façon privilégiée. Alors, ça donne pas une mondialisation au sens où on l'entend aujourd'hui. Je crois, et je l'ai dit dans l'introduction, je n'écris pas une histoire de la mondialisation. Ça serait absurde. D'abord parce que la lenteur des communications, la faiblesse des communications exclut qu'on sache partout, à tout moment, ce qui se passe, même avec retard. On sait très peu de choses. Il y a peu de choses. Il y a des connaissances qui filtrent, mais elles sont finalement faible. On peut pas dire aujourd'hui la mondialisation, c'est que moi je bois du thé de Chine dans un verre fabriqué pourquoi pas au Canada et après tout un Bolivien peut faire exactement la même chose que moi. Là c'est de la mondialisation. Là on n'en est pas du tout là. Même si curieusement, il y a un passage que je cite, je crois, dans la conclusion de Sénèque l'Ancien qui dit « Mais aujourd'hui, on vit une époque folle. Les Indiens boivent l'eau fraîche de l'Arax, etc. » Il donne ces exemples en disant « Mais où est-ce qu'on va s'arrêter ? Franchement, n'importe qui peut profiter de toutes les richesses du monde. » Déjà, Aelius Aristide, au IIe siècle, disait « Mais à Rome, on consomme les biens de la terre entière. » C'était quand même plus une formule qu'une réalité vécue. D'autant plus qu'il ajoutait, on en a même tellement importé à Rome que ceux qui les produisent n'en ont plus et sont obligés de venir à Rome pour en trouver s'ils veulent trouver leur propre production. Là, on est dans un genre littéraire qui veut que l'excès soit la norme, en quelque sorte.
Voilà, l'excès soit la norme, et justement, Maurice Sarthe, hein, à propos de la mondialisation, vous dites qu'on est plus proche d'une histoire connectée. Vous avez cité l'historien Romain Bertrand, on pourrait citer Patrick Boucheron aussi,
Bien sûr.
Ses réflexions sur la mondialisation. Là, nous sommes sur une histoire plus connectée. J'aime bien cette notion de connectée, parce que nous sentons qu'il faut temporiser l'idée de mondialisation. Et puis, il y a du récit dans tout ce que vous livrez, dans tout ce que vous utilisez. Et dans ce récit, il y a le factuel et la fascination qui nous conduit au fabuleux. Et les deux sont facilement mélangés dans les sources.
Et c'est mélangé. L'historien, et c'est là la grande difficulté d'écrire ce genre d'histoire, c'est que l'historien est en quelque sorte piégé par ses sources. C'est-à-dire que les Grecs ignorent un certain nombre de choses, ce qui est naturel. Et donc, du coup, on décide que c'est inconnu. Mais c'est inconnu d'eux et de nous. Mais il y a des tas de gens qui le connaissent à cette époque-là, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils... Tout ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la découverte de la mousson, découverte par les Grecs. Il y a belle lurette que les Indiens savaient naviguer et venaient sur les côtes d'Afrique en profitant des vents de la mousson. Donc, il faut jamais oublier que quelque chose qui est inconnu, c'est inconnu de nous. Inconnu de nos sources, et c'est connu. Il n'y a de siècle obscur que pour nous. Les siècles obscurs, ça n'existe pas en soi, en quelque sorte.
Oui, et d'ailleurs, grâce à vous, Maurice Sarthe, on a un éclairage sur ces routes antiques. Comprenons qu'elles peuvent encore se poursuivre, ces routes, parce qu'elles peuvent être vues d'ailleurs. Et puis, il y en a encore des tonnes. C'est juste un plaisir de lecture. Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, du 6e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle après Jésus-Christ, publié chez Talendier. Merci beaucoup d'avoir été notre guide, Maurice Sarthe.
Merci à vous.
Et nous retrouvons tout de suite Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Dans le journal de l'histoire, l'amour en temps de crise, une histoire révolutionnaire.
Comment s'est inventé le marché du couple ? Le sujet est partout en ce moment, comment se rencontrer en temps de crise, l'amour au temps du Covid, quand le hasard des rencontres ne remplit plus son rôle dans les circulations amoureuses, les applications font le plein d'inscriptions pour contenter les cœurs et les corps esselés. Une aide professionnelle pour se caser qui s'invente pendant la Révolution, le premier office qui s'apparente à une agence matrimoniale apparaît furtivement en 1790. Et cette révolution trouble pour longtemps le marché matrimonial. L'historienne Claire Lise Gaillard s'est plongée dans les registres d'une agence matrimoniale sous la monarchie de Juillet. Nous sommes au milieu du 19e siècle et les affaires marchent bien. Exciting and new, come aboard, we're expecting you. S'en remettre aux professionnels pour trouver à se marier à cette époque, c'est encore nouveau. D'ailleurs, les critiques pullulent, on jase sur la naïveté des héritiers qui se livrent volontairement aux griffes d'escrocs sans vergogne. Pourtant, l'agence de Charles-Henri de Foix, sise au 17 rue Bergère à Paris, serait à l'origine de 7 à 28% des unions contractées à ce moment-là, selon les estimations de Claire-Lise Gaillard. Autrement dit, si l'on se pince le nez en public, on y va quand même. Si aujourd'hui les applications tirent leur argument de vente de la qualité de leurs algorithmes, au milieu du 19e siècle, le trésor de cette agence matrimoniale, ce sont les secrets de famille. Les détails que l'on remise avec soin sous le tapis pour apparaître au monde sans tache. Les enfants adultérins, leurs tares héréditaires, un frère imbécile ou un père suicidé, tout est bon à prendre pour comprendre à quel endroit on s'apprête à mettre les pieds. Une note indique même « perd ses urines » dans les colonnes de ses registres de personnes à marier. Les veuves, même âgées, ont la cote. La fortune du mari décédé est un avantage certain. Les parents qui s'apprêtent à passer l'arme à gauche en libérant l'héritage espéré sont également un atout de choix. Si le marché de la rencontre s'invente à ce moment-là, au XIXe siècle, c'est qu'on n'y comprend plus rien. Les frontières de classe se sont troublées avec la Révolution française et l'on a parfois du mal à retrouver les siens parmi les élites qui mêlent désormais bourgeoisie et aristocratie. Bref, on est un peu perdu et les indices traditionnels de fréquentabilité ne sont plus aussi fiables qu'ils l'étaient. On cherche à pallier la disparition de la transparence d'antan pour naviguer dans un monde social où le mariage reste garant de la pérennité de la fortune familiale, s'il n'est pas dans le meilleur des cas le moyen d'une ascension sociale. C'est d'ailleurs surtout la clientèle masculine de l'agence qui bénéficie de ces précieuses informations. Les femmes qui apparaissent dans les registres s'y trouvent souvent sans le savoir et ne sauront parfois jamais à quel point leur mariage était arrangé. Une marchandise ignorante du sort qu'on lui réserve. De Foix est en réalité le pivot d'un réseau social qui dépasse largement ses connaissances personnelles. Ses informateurs se recrutent dans le voisinage, dans le cercle des proches. Le médecin de famille est un informateur de choix en sa qualité de fin connaisseur des liens familiaux et de leurs aspérités. Des informations rémunérées, aussi bien que l'adresse des entremetteurs, qui entrent en action une fois la proie ciblée, le service de Henri de Foix assure toutes les étapes de la transaction. Un réseau au service du marché du mariage qui ferait pâlir d'envie les développeurs des applis de rencontres. Le hasard avait déjà peu à voir dans les unions de nos ancêtres d'il y a 2 siècles, qui fuyaient déjà la solitude de leur monde moderne, mais qui cherchaient surtout à bien se marier pour ne pas déchoir.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, nous continuons nos histoires de routes. Oui, après les routes antiques, nous allons aller encore au-delà, quoique nous allons retrouver des gens de l'Antiquité, puisque nous allons remonter vers la Lune, vers l'espace. Vous allez voir déjà avec Lucien dans l'Antiquité, il y avait des voyages dans l'espace.